La dame sur le quai par Tristan Bernard.
Allons, mon bon Lucien, pourquoi ne veux-tu pas faire ce petit voyage ?
En Argentine ? Tu appelles cela un petit voyage ?
4 mois d'absence, pour le moins.
Beaucoup plus de 4 mois, car je suis sûr qu'une fois là, tu n'en reviendras plus.
Si j'avais quelque hésitation, voilà qui réglerait tout à fait la question.
Mais, par curiosité, pourquoi n'en reviendrais-je plus ?
Parce qu'une fois entré en relation avec mon ami argentin, quand il t'aura fait construire ce magnifique palais qu'il a projeté, ça te fera là-bas une publicité énorme, et tu gagneras tout ce que tu voudras. Il te faudra une ramasseuse électrique pour récolter ton pognon. Alors tu t'installeras à Buenos Aires pour l'éternité.
Pour l'éternité, te dis-je, et tu sais que je ne suis pas un bluffeur.
Je sais que, sous tes dehors exubérants, tu es le plus sérieux des hommes.
C'est la grosse, grosse fortune qui m'attend là-bas. C'est donc à cette fortune colossale que je renonce en restant ici.
Auprès de ton ami Claude ?
Auprès de mon ami Claude. Depuis la mort de mes parents, je n'ai pas d'autre famille.
Claude est un homme délicieux et un grand sculpteur. Mais quand on est comme toi, un architecte d'une valeur exceptionnelle...
Et là ! Un architecte admirable, que son pays ne sait pas utiliser,
mais qui gagne sa vie très suffisamment.
Qu'est-ce que c'est que ça, très suffisamment ? On ne te fait pas travailler, on ne te fournit pas d'occasion. Un peintre, un sculpteur achète de la toile ou de la glaise et travaille à son idée. Toi, il faut attendre qu'on te commande l'ouvrage. Tu ne peux pas t'amuser à construire un Parthénon pour mettre dans ta salle à manger. Et puis, nous vivons dans un pays de capitalistes râleux.
Et je suis au courant. Tu as la réputation d'un architecte cher.
Il te faut comme client des milliardaires somptueux. Des gens pour qui la sagesse est de ne jamais compter.
Il en viendra peut-être dans mes parages.
Il est plus sûr d'aller les trouver dans leur patelin. Là-bas, j'en ai repéré un magnifique, qui fera tout ce que tu voudras, et t'écoutera sans piper, comme on écoute un haut-parleur.
Et je ne t'ai pas tout dit, mon Lucien. Il a une nièce splendide, qui ne rêvera que par toi.
Ah, tais-toi. Si je n'avais pas été décidé à rester ici, la perspective de meubler les songes de cette personne splendide aurait suffi à me ribber étroitement au sol natal.
Mais enfin, Claude n'a pas besoin de ton amitié. Il a fait sentimentalement sa vie. Il a une jeune femme dont il est fou et qu'il adore. Qu'est-ce que tu fais entière dans ce ménage-là ?
Eh, mais tu m'ouvres des horizons.
Je sais, mon bon, que tu n'es pas en flirt avec la femme de ton ami.
Tu as toujours été d'une honnêteté quasi monstrueuse.
Tu exagères grandement.
J'ai dans mon passé, à mon casier d'aventure, 2 ou 3 petites trahisons vis-à-vis de 2 ou 3 camarades. Elles sont modestes, mais elles suffisent pour que je ne sois pas le monstre d'honnêteté que tu prétends.
L'idée que j'aurais pu faire la cour à Denise est très imprévue. Je l'aime beaucoup. Je l'aime comme un autre ami.
Elle a su parfaitement comprendre Claude. Elle aime l'amitié que j'ai pour lui.
Je vois. Vous faites un ménage à 3 platonique.
Au moins en ce qui concerne ce que j'appellerais vos rapports triangulaires.
Car je ne pense pas que Claude et Denise aient fait un mariage blanc.
J'ai dîné une fois chez eux, ils se tenaient convenablement.
Mais leur attitude réciproque n'était pas celle de 2 personnes pures, réunies par un lien éthéré.
Elle est jolie,
j'allais dire, elle est jolie la matine.
Dans ce cas, c'est un vieux rite français d'ajouter la matine.
Mais pour elle, ça n'irait pas.
Elle est jolie, évidemment.
Oui, tu vas me dire que ce n'est pas ton type.
Et je te réponds que c'est heureux pour la pureté séraphique du ménage à 3.
Enfin, je m'obstine et je reviens à ma proposition de voyage.
Tais-toi, laisse-moi espérer encore et diffère ta réponse négative.
Tu as 3 jours pour te consulter davantage.
Je m'embarque mercredi.
Je vais passer d'abord 36 heures à Deauville.
Si tu changes d'avis, oui, c'est entendu, tu ne changeras pas d'avis, mais si tout de même tu reviens providentiellement à la raison,
un télégramme à Deauville.
Je ne sais pas où je descendrai. Câble-moi au casino. Casino de Deauville, Fernand Galba.
Je sais comment tu t'appelles.
Je m'en doute, mais je te recommande Maître Fernand.
Car il y a là-bas d'autres phénomènes qui portent mon nom et qui ne dédaignent pas de hanter les salles de jeu.
Fernand Galba, c'est compris.
Je te télégraphierai pour te souhaiter bonne route et pour te dire que je n'ai pas changé d'avis.
Cette conversation du restaurant du bois où ils avaient déjeuné les avait conduits jusqu'à l'hôtel particulier de Galba.
« Monte un instant à la maison. »«
Non, j'attends un client chez moi. »«
Il ne vaut pas mon argentin. »«
Bien sûr, mais il habite plus près. »«
Alors va-t'en de mes yeux, race casanière. »«
Adieu, mon vieux Lucien. »«
Et je compte sur ton câble, à Deauville. » Comme Lucien, devant son domicile, descendait d'un taxi, un petit télégraphiste entrait sous le porche. Le jeune messager appuyait en vain sur le bec de canne de la loge. La concierge était dans l'escalier. « Votre dépêche n'est pas par hasard pour Monsieur Lucien Gérier. »«
Justement, monsieur, c'est vous. Je suis déjà venu chez vous. »
La dépêche, envoyée d'Annecy et signée Denise, disait
« Affolé. Claude très malade. Deux médecins d'ici ne donnent aucun espoir. »
Lucien, après avoir consulté l'indicateur, passa au bureau de poste et télégraphia à Denise qu'il arriverait le lendemain matin. Le règlement de quelques affaires pressées l'occupa jusqu'à l'heure du train. Son commis l'avait accompagné dans ses courses. Mais une fois qu'il fut dans son compartiment avec des voyageurs inconnus, c'est alors seulement qu'il se rendit pleinement compte du fait que Claude allait mourir. Claude allait disparaître de sa vie, la laissant sombre et désolée.
Le soleil couchant qui, à cet instant, abandonnait la terre, renaîtrait le lendemain et la ferait renaître.
Lucien, pour toujours, avait perdu le soleil de sa vie.
C'est sous le regard de Claude qu'il avait vécu et travaillé. Toutes ces heures n'avaient qu'un but, plaire à Claude, satisfaire ce témoin incessant. Il revint en mémoire ce vers d'un poète dont il avait oublié le nom.
« Je suis comme une âme sans place. » Il était lui, comme une âme qui ne retrouverait jamais d'autre place.
« Travailler ? » ?»«
Pour qui ? » ?»«
En l'honneur de qui ? » ?»«
Pour lui-même. »
Mais que restait-il de lui-même, puisque Claude, sa conscience, ne vivait plus ? Ce ne fut que plus tard, au moins 2 heures plus tard, qu'il pensa à la pauvre femme qu'il allait trouver là-bas. Pour elle aussi, cette perte était abominable. Au retour d'un voyage en Grèce, il avait trouvé Claude marié à une jeune orpheline. Claude, par lettre, l'avait mis au courant de ses projets d'union. Et le jour où il avait reçu la lettre, Lucien n'en avait pris aucun ombrage. Tout ce que faisait Claude était bien fait. Lucien avait une pleine confiance dans le choix de son ami et dans toutes ses décisions. Quand il revint en France, Denise était déjà acclimatée dans la maison comme si elle y avait vécu depuis toujours. Son mari lui avait parlé de Lucien. Elle connaissait déjà le caractère du jeune homme et même de ses petites manies personnelles, thèmes rituels de plaisanterie entre deux bons amis, qui se connaissent bien et se plaisent à se taquiner. Denise n'était pas du tout l'intruse que l'on pouvait craindre. Elle ne défigurait pas Claude, elle le doublait. Denise et Lucien, unis par leur amour pour Claude, jugeaient son travail avec la même admiration et aussi parfois la même inquiète sévérité. Et c'était toujours contre leur critique commune qu'il avait à défendre son œuvre. Elle aussi avait perdu son unique raison de vivre, mais son veuvage à elle était encore plus dur, car ce n'était pas seulement le compagnon de ses journées qu'elle avait perdu. Lucien, qui souffrait tant déjà, se sentit plus malheureux encore quand il aperçut en imagination la couleur de Denise. Un instant, il eut peur de la revoir, et s'irrita de cette lâcheté. Comment, pendant quelques secondes, il avait pu être assez faible pour se dire qu'il la fuirait, par effroi de la voir souffrir? Qu'est-ce que Claude eût pensé d'une telle faiblesse? Le devoir de Lucien, son devoir âpre, déchirant, était de rester auprès de cette femme. Il se voyait, cheminant à ses côtés, en deuil comme elle, et regardant tous deux très loin devant eux, de leurs yeux vidés de larmes. Par-delà le monde, vers ce mystère où leur joie de vivre avait disparu. Il y avait 2 autres voyageurs dans le compartiment. Lucien n'avait pu trouver de couchette. D'ailleurs, il se disait qu'il dormirait à peine. Ses compagnons de route s'étaient installés pour la nuit. Le compartiment n'était éclairé que par la lampe du couloir. Lucien s'assoupit à son tour, mais l'évocation persistait. Le sommeil était entré en lui au moment où il se voyait marchant à pas lents à côté de Denise, dans le jardin de ce domaine savoisien où elle était venue s'installer avec Claude. Le gardien moral, qui contrôle les rêveries d'un éveillé, disparaît au moment des songes, comme s'il avait besoin de se reposer lui aussi, et comme s'il se disait que l'individu dont il a la surveillance ne risque rien dans un monde fictif, où les intentions ne peuvent être suivies d'une réalisation dangereuse. Dans l'asile du songe, où la police ne pénètre pas, Denise et Lucien purent s'asseoir sur un banc, très près l'un de l'autre, enlacer leurs mains. Pour la première fois, Lucie sentit combien la main de Denise était douce. Lucien ne se réveilla pas véritablement, mais il continua sa rêverie le long d'une lisière qui bordait le bois sacré du songe. Le tuteur moral, lui, continuait à dormir. Lucien se rendait compte qu'il ne rêvait plus. mais il se disait vaguement que, dans l'enclos bien défendu de son âme, il pouvait suivre son idée, à l'abri de tout regard humain. Évidemment, son devoir était de rester auprès de cette jeune femme. Mais ce devoir impérieux, austère, douloureux, avait pris depuis quelques instants un visage plus amène, qui n'allait pas bien entendu jusqu'au sourire. Denise continuerait sans doute à habiter ce domaine de Savoie. Lucien pourrait facilement prendre ses dispositions pour habiter le plus possible auprès d'elle. Il avait à Paris, pour le courant des affaires, un commis intelligent. Son travail personnel, un travail de pure création, se ferait tout aussi bien, et plutôt mieux à la campagne, dans un atelier où le souvenir de Claude serait encore le témoin et le juge de son ouvrage. Mais quelles seraient au juste les relations de Lucien et de Denise? Sur ce point, le jeune homme ne voulait pas s'expliquer précisément. Chaque fois qu'il effleurait ce sujet, il sentait en lui un frémissement tel qu'il écartait toutes ses idées. Il viendrait à Paris pour les besoins de ses affaires, mais il y resterait aussi peu que possible. Et quelle impatience au retour quand le train s'approcherait d'Annecy. Que la dernière demi-heure serait longue. Les aiguilles de la montre consultées sans relâche, les aiguilles restent immobiles. Enfin, un coup de sifflet annonce la station. Plus que quelques centaines de mètres avant d'apercevoir le quai, et sur le quai, la chère compagne qui l'attend. À ce moment, le coup de sifflet, le vrai, trouve brusquement le demi-rêve de Lucien. On approche d'Annecy. Mais cette fois, c'est une femme éplorée qu'il apercevra sur le quai. Pas du tout. C'est une Denise heureuse, éperdue de joie, qui lui crie un mot qu'il devine. « Sauvé, Claude est sauvé !» Une nuit a fait ce miracle. Et maintenant, tous les médecins sont affirmatifs. Il n'y a plus le moindre danger. Et tous les détails qu'elle lui donne en l'embrassant comme on embrasse un frère, et sans remarquer qu'il ne lui rend pas ses baisers. « Eh bien, mon brave Fernand, avez-vous gagné aujourd'hui ?»«
J'ai perdu, comme toujours, » répond M. Galba à cet ami qui le questionne à la porte de la salle de jeu.
« Mais je viens de recevoir une dépêche qui compense tous mes déboires. »«
Un ami qui m'accompagne dans le Sud-Amérique. Je vais téléphoner pour une cabine. »
C'était « La dame sur le quai » par Tristan Bernard.